Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 avril. Bonjour Gilles Danseman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Bah bien, et vous?
Bah oui. Écoutez,
pas trop angoissé par toutes ces infos?
Un petit peu de temps en temps, mais bon. Ce week-end, j'ai regardé Tiger King, moi, sur Tiger King, sur, sur Netflix, qui est un documentaire, mais juste de folie. Si vous avez Netflix, je conseille à nos auditeurs de regarder Tiger King, qui est quelque chose.
Alors,
c'est une forme de striptease d'un gay qui aime les tigres.
Mais c'est enfin, striptease, vous faites référence à l'émission, ce n'est pas un type qui soit à poil. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Alors, un autre genre de striptease, non, pas du tout. Thomas Hill sera avec nous. Thomas Hill qui anime La Quotidienne tous les jours avec Maya Lequet. Eh bien, La Quotidienne à la maison revient avec une version spéciale crise. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur les assurances, sur l'alimentation, enfin, beaucoup, beaucoup de choses extrêmement concrètes. On en parlera avec lui. On aura Tina Kieffer pour parler du Cambodge. Là aussi, la situation est très difficile avec, comme dans beaucoup de pays, une économie qui est totalement à l'arrêt, des conséquences dramatiques, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la France. On parlera de la solidarité en France, également avec ces associations qui sont submergées par, je ne sais pas si vous avez eu ces images impressionnantes, des queues très très longues de gens qui vont chercher de l'aide alimentaire. Et puis, on sera avec le président français de virologie pour parler du Covid-19 et essayer de comprendre un petit peu plus de choses sur ce virus.
Commençons avec... Qu'on découvre tous les jours, quand on regarde la télé.
Oui, enfin, on découvre et on découvre pas. On découvre et on découvre pas. C'est-à-dire qu'il y a autant d'études et d'avis qui sortent, d'infos, de fake news, de choses pas comprises, en particulier sur cette histoire du VIH. Moi, j'ai reçu 10 coups de fil ce week-end me disant « Ah, il y a le sida dans le virus ». Non. Il faut essayer de comprendre un petit peu les choses. Donc, ne paniquons pas non plus. On en reparlera tout à l'heure. Alors, les audiences, hier, il y avait beaucoup de monde, encore une fois, devant la télévision et en particulier devant la conférence du Premier ministre entre 17h et 19h45. On va évidemment y revenir si vous avez des réactions. Elle a été diffusée par toutes les chaînes d'info, par TF1 et France 2. Et rien que déjà TF1, France 2, c'est 7 293 000 téléspectateurs. Donc, j'imagine que nos auditeurs ont un peu regardé ou en tout cas essayé de regarder parce que c'était très, 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 très long quand même. En tête des audiences, c'était Koh-Lanta vendredi avec 6 962 000 téléspectateurs. 100 000 téléspectateurs de plus. C'est le nouveau record de l'émission depuis décembre 2016. Me signale. Oui, très court. Me signale Rémi Pernelet. 0826 300 300, qu'avez-vous regardé? Vous savez que vous pouvez nous appeler. Sonia de Perpignan est en ligne avec nous. Bonjour Sonia.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à tout le monde.
Vous allez bien?
Bonjour les auditeurs. Très très bien, merci. Oui.
Bon. Alors, vous avez regardé de quoi vous aviez envie de nous parler de ce que vous avez vu ce week-end?
The Voice. J'ai vu ça.
The Voice.
Samedi soir, très intéressant, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Et j'alternais, pendant la pub, j'alternais avec Surprise, Surprise, sur votre chaîne. Mais il y en avait qu'on avait déjà vu.
Voilà. Mais oui, c'était le principe, parce que c'était les 30 ans, donc c'était un peu le principe de revoir. Oui. Mais moi, j'avoue que je me suis marrée en voyant le sketch de Thierry Lhermitte. Il y en avait quelques-uns qui étaient franchement... Enrico Macias, c'était très, très drôle aussi.
Il disait au secours. Il était enfermé, il disait au secours, on venait me délivrer.
Ouais, absolument.
Les autres étaient aveugles, sourds et aveugles, comme par hasard.
Vous avez regardé les deux, en fait.
Vous avez regardé les deux.
J'ai de regarder les deux. Et sinon, je voulais profiter, s'il vous plaît, de l'antenne pour pour le Covid-19. J'ai reçu une vidéo très intéressante qui préconise de manger beaucoup d'ail et d'oignons crus. Vous voyez, parce que ça passe par l'assiette aussi, les systèmes immunitaires. De manger de l'oignon et de l'ail cru dans la salade, coupé en petits morceaux. Et bon, pour la laine, on peut manger du persil après, et puis de la menthe. Et de dormir très tôt. Vers 21h, 22h, la qualité du sommeil et la quantité, c'est très important pour le système immunitaire. Ouais. Donc, les aliments et puis faire du sport chez soi. Et tout ça, ça
oui, c'est sûr.
Ça, c'est valable.
Ça entre en compte, évidemment, bien voilà. sûr. Après, c'est vrai que le virus, il est aussi très, très puissant. Mais c'est sûr que plus on a une bonne alimentation et mieux c'est. Voilà. Bah, écoutez, surprise, surprise, Rémi Pernelet me dit que ça. Alors, je crois que c'est arrivé en quatrième position. Ça fait 3 260 000 téléspectateurs. Et avant, bah, il y a eu The Voice qui a cartonné 5 267 000 téléspectateurs. Oui. Près de 20% de part de marché. Vous avez une chouchoute ou pas dans The Voice?
Oui, c'est l'aveugle, la jeune femme aveugle, Maria. Ah,
Maria, oui, elle est très, très émouvante.
Elle
a très, très bien chanté. Mongeville a très bien marché. Merci beaucoup, Sonia. Merci de nous avoir appelé. Mongeville a très bien marché également. Hier soir, c'était Hôtel Transylvania. Je pense qu'il y avait beaucoup d'enfants devant la télévision. 4 638 000 téléspectateurs. Il y avait le film Elle l'adore, que moi, j'ai beaucoup aimé avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. 3 445 000 téléspectateurs. À signaler que samedi, Hibernatus, qui a déjà été diffusé il y a 6 jours, donc avec Louis de Funès à 23h, Rémi Pernelet m'a indiqué ça faisait 2 018 000 téléspectateurs, et bien hier ça a refait 2 217 000 téléspectateurs, et le Père Noël est une ordure, dimanche après-midi près de 3 millions de téléspectateurs, on a envie de rire, carton. On a un auditeur qui lui nous dit qu'il a regardé la chaîne je l'ai perdu, Benoît, il nous dit qu'il a regardé une chaîne qui commence à 20h45, donc c'est peut-être un choix aussi parfois quand on choisit son programme. Paramount Channel avec le film Chinatown. Très bon film et très bon choix. Voilà. Allez, on passe au zapping, Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Évidemment, Valérie, l'événement d'hier, c'était la conférence de presse d'Edouard Philippe sur toutes les chaînes. Et je croyais, moi, on n'est pas prêt de reprendre un petit café en terrasse.
Notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement.
Une conférence de presse qui aurait pu plaire à Jean-Luc Mélenchon, je m'explique. Car écoutez ce qu'il réclamait, c'était samedi, la veille donc de la conférence de presse, et il était sur BFM.
C'est pourquoi je dis que dans le déconfinement, quand on va déconfiner, il va falloir tester tout le monde.
Justement,
et ceux
aussi
qui sont malades devront être hébergés séparément, mis en quarantaine, par exemple, en réquisitionnant des chaînes d'hôtels. C'est en ce moment, il n'y a pas trop de clients dans l'hôtellerie. Donc, il y a des communes qui l'ont fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le déconfinement, c'est une opération qui repose sur la planification.
C'était samedi, il a été exaucé le lendemain. Lui aussi, il est content de l'annonce d'Edouard Philippe. C'est Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, qui a enfin été donc exaucé avec le port du masque pour tout le monde. Mieux vaut tard que jamais.
Écoutez, le 13 mars, le Premier ministre nous avait expliqué que les masques, ça ne servait à rien, population générale. Il a changé d'avis, il faut prendre acte de la conversion. Les conversions, c'est toujours utile quand on est un homme politique et quand on voit la vérité éclater. Oui, il faut mettre des masques. Oui, il faut se protéger, en réalité, le nez et la bouche quand on sort, pour éviter d'en mettre partout. Parce que quand on parle, quand on tousse, quand on postillonne, des gouttelettes partent de votre bouche, de votre nez, et polluent l'environnement. Donc oui, je vous le confirme, il faut mettre des masques.
Alors du coup, Valérie, je me suis dit, mais où vais-je trouver des masques? Comment je vais faire? Alors, je me suis tourné vers Alexia, vous savez, mon assistante vocale d'Amazon. Je me suis dit, est-ce qu'elle peut m'aider à trouver des masques?
Alexa, où trouver des masques?
Voici quelques établissements. Au Bal Masqué, avenue Victor Hugo. Au Bal Masqué, avenue Alphand. La Compagnie du Masque, édition du Léopard Masqué.
Bon, c'est pas gagné.
Vous n'avez pas été très renseigné, non. Pas vraiment.
Bon, les vieux et les gros pourront sortir le 11 mai, c'est ce qu'a annoncé notre Premier ministre. Fini les inquiétudes donc sur le confinement prolongé. Vendredi dans C'est à vous, Noël Mamère, la députée de l'ARM aux petits et Gilbert Collard, qui ont tous plus de 65 ans, revendiquaient leur grande forme.
Non, je ne me sens pas vieux, mais c'est facile. Je ne suis pas très objectif en vous disant ça. J'habite au 5e étage sans ascenseur. Ça me fait de l'exercice quand même, c'est pas mal.
Vous voyez, regardez, moi je me levais, j'ai 70 ans, je suis en jean, j'ai toujours été en jean, je fais mon sport, je fais tout, je suis normale. Je suis pas la petite grand-mère, mes mères, machin et tout, pas du tout.
J'ai un sac de boxe sur lequel je colle des étiquettes qui portent des noms différents selon les jours.
Hein. Lesquels ?
Ça, c'est le secret professionnel du sportif. Hein. Je sens le poids des emmerdeurs, mais pas le poids des années.
Gilbert Collard, bon, qui a des noms sur son sac de boxe.
Absolument.
Un mois et une semaine de confinement qui a changé donc nos modes de vie et nos rapports, y compris sexuels, Valérie. Vendredi dans Quotidien, la sexperte, hein, c'est comme ça qu'elle préfère se nommer, Maya Mazorette, donnait quelques conseils aux adeptes du sexe virtuel qui a explosé avec le confinement.
Si vous faites l'amour par caméra, smartphone ou que vous participez à ces orgies en visioconférence, essayez de mettre des bandeaux, des loups, des masques, n'importe quoi. Essayez en tout cas de ne pas avoir votre tête et votre sexe dans la même image, parce qu'il y a un Benjamin Griveaux qui sommeille en chacun d'entre nous, et il faut faire vraiment attention à ce genre de choses, parce qu'il y a aussi eu une augmentation de 40% des signalements pour cyberharcèlement depuis ces dernières semaines, qui touchent notamment les femmes et notamment les très jeunes femmes.
Des orgies par caméra, faut voir. Hein,
bon. Non, mais il faut surtout rappeler effectivement d'être prudent également si on est tenté par ce genre de choses. Les visages, ça peut toujours, c'est ce qu'elle disait, de se retrouver sur des sites de revenge porn par la suite.
Je trouve bien spécialiste Valérie.
Non, j'ai écouté l'émission.
Et pour finir, pour continuer, c'était l'événement musical de ce week-end, vous savez, diffusé dans le monde entier, One World Together at Home, organisé par Lady Gaga. C'est elle qui a ouvert le bal avec Smile, une chanson de Charlie Chaplin. If you just smile. Alors, diffusé dans le monde entier, c'était un succès pour l'initiative de Lady Gaga.
Pas en France. Hein, Rémi Pernelem signale qu'en France, ça n'a surtout pas marché. Seulement 645 000 téléspectateurs et 5,6% de part de marché hier soir à 22h45. Moi, j'ai trouvé ça assez nul. Mais
est-ce qu'il a fait le cumul des audiences?
Après, dans le monde, forcément. Oui.
Plus de 128 millions de dollars récoltés. Alors, l'affiche était quand même impressionnante. Je ne sais pas si vous avez vu Elton John, qui est quand même passé à côté de sa prestation.
Oui, un petit peu, oui, il chantait pas très bien.
Mais par contre, il y avait les Rolling Stones, je sais pas si vous l'avez vu, qui étaient assez formidables avec Mick Jagger.
Voilà, ouais, avec Charlie Watts qui était quand même assez incroyable, qui n'avait pas de batterie et qui était plus ou moins en pyjama. Mais c'est vrai que c'était marrant de les voir réunis. Moi, j'ai regardé en accéléré, en replay, parce que franchement, c'était assez barbant comme
concert. C'était fait
comme
pour
concert.
Les Américains, donc c'était très américain, hein, avec des sujets très américains, avec des stars qu'on ne connaît pas, des gens de l'info qu'on ne connaît pas. Donc, en effet, pour la France, ça avait un intérêt très limité, je suis d'accord avec vous, sauf les chansons.
Allez, Thomas Hill est avec nous, forcément. Bonjour Thomas Hill.
Ça fait plaisir Valérie.
Voilà, comment allez-vous?
Ça va
comment
très bien
ça
et
va
vous?
On est content de vous recevoir. Vous avez un petit studio aménagé derrière vous?
Exactement, si vous avez l'image, vous pouvez voir que c'est
Vous pouvez nous suivre. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook avec le site Sud Radio et puis sur YouTube. Donc Thomas Hill est en direct avec nous, en live. Et donc ce petit studio, c'est pour vous permettre de présenter la quotidienne à la maison, donc l'émission de France 5 tous les jours, du lundi au vendredi. Donc racontez-nous un petit peu déjà votre confinement, ça va, ça se passe bien ?
Ah, le confinement, moi je le vis relativement bien, même si je suis avec deux enfants plutôt en bas âge, 4 et 7 ans, donc c'est un petit peu de boulot parce qu'il faut, en plus du travail, leur faire l'école tous les jours. Et l'air de rien, en CE1, le niveau commence à être pas mal. J'arrive à peu près à mes limites. Et non, mais voilà, c'est un peu de boulot. Et après, moi, j'essaie de m'occuper à côté, de faire plein de choses. Je me suis lancé dans des aventures boulangères. J'essaie de faire mon pain, ma brioche. Là, j'ai fait mes croissants ce matin. Je peux vous montrer mes croissants.
Voilà. C'est vous qui achetez toute la farine, alors, si j'ai bien compris. C'est pour ça qu'on trouve plus de farine.
C'est vous.
Alors, vous les avez, vos croissants? Faites voir. Faites voir le croissant,
oui,
on n'a pas bien vu.
Ils sont totalement ratés parce que le beurre a suinté et le feuilletage n'est pas là du tout. Mais le goût est pas trop mal. Ça ressemble plus à une espèce de brioche en forme de croissant. Mais c'est une expérience. C'est sympa à faire en tout cas. C'est amusant.
Bon, alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir. La décision donc de faire la quotidienne à la maison, ça s'est mis en place comment? Tout le monde a été partant pour le faire?
Oui, en fait, nous, on était très frustrés parce qu'on voulait tout de suite reprendre l'antenne, sauf qu'on a eu une période de quarantaine, puisqu'il y a eu plusieurs cas de Covid-19 dans l'équipe. Et donc, du coup, on était obligés pendant 15 jours de se taire. Heureusement, on avait mis en boîte des émissions en prévision. Et donc là, on a pu faire la jonction à peu près avec la quotidienne à la maison. Et en fait, c'est France Télévisions aussi qui a vraiment été moteur dedans. En nous disant que c'était important de continuer à être là pour accompagner les téléspectateurs, que les gens se posent énormément de questions sur leur vie quotidienne. Et que c'est vrai, hein, on le voit d'ailleurs un peu partout dans les émissions, même dans les JT. Maintenant, on a beaucoup de questions de vie quotidienne pratique, quoi. Ouais. Et donc, on voulait être là aussi pour y répondre avec le sourire dans une émission qui soit toujours positive et sympa, quoi. Voilà.
Pas trop. Alors, vous êtes confiné avec Maya Loquet?
Ah non, j'aimerais bien. Non, je suis confiné avec ma femme et mes deux enfants. Et elle est de son côté aussi avec ses enfants.
Alors, la force de la quotidienne, c'est évidemment l'ambiance entre tous les chroniqueurs. Et vous avez réussi d'ailleurs à garder cette ambiance et ce côté un peu club qu'on retrouve dans la quotidienne. Est-ce que vous avez découvert leur intérieur? Est-ce qu'il y a des chroniqueurs dont vous êtes surpris? Maya, elle est devant sa cheminée. Est-ce que vous êtes surpris de l'intérieur des différents chroniqueurs de l'émission?
Oui, alors ça, c'est un peu l'émission dans l'émission, parce que c'est assez rigolo de constater que, par exemple, moi, Fabien, que je pensais être un ours vivant dans une cabane, je me rends compte qu'il a un intérieur finalement assez design et tout ça. J'étais jamais venu chez lui parce qu'il est assez loin de Paris. Donc, c'est assez rigolo. Après, la difficulté, c'était justement ça, c'était de recréer l'ambiance entre nous, parce qu'on n'est pas les uns à côté des autres. Et comme vous le savez, vous le voyez là, vous l'entendez aussi, il y a un petit décalage entre nous. Donc, on a essayé de réduire le plus possible, ça c'est la partie technique, réduire le plus possible les décalages de son entre nous pour qu'on puisse rebondir les uns sur les autres, parce que sinon ça tue toute spontanéité. Et ça, c'était vraiment un piège pour nous, c'est de plus avoir cette ambiance-là. Quoi.
Ouais. Quels vont être les thèmes?
Oui, voilà, c'est ça. Vous avez des questions, j'imagine, qui vous arrivent de vos auditeurs sur le site de La Quotidienne. Donc, qu'est-ce qui revient le plus?
Alors, on a beaucoup de questions en ce moment, notamment sur les masques, sur les ports des masques, sur le fait de le rendre obligatoire, sur les autorisations de sortie aussi, parce que les gens sont complètement perdus. Est-ce que j'ai le droit de cocher plusieurs cases? Est-ce que j'ai le droit de sortir plus d'une heure si jamais je vais faire les courses? Toutes ces questions concrètes, on a besoin d'y répondre. Et puis ensuite, on fait aussi des thèmes, des dossiers un petit peu plus larges. Par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse aux éleveurs, aux agriculteurs. Comment est-ce qu'ils font face à la crise? On va s'intéresser au télétravail. Comment est-ce qu'on peut arriver à bien télétravailler chez soi, et puis des choses aussi très pratiques comme garder une certaine dignité chez soi en termes de beauté, d'hygiène. Voilà, on va donner des conseils aussi pour se couper soi-même les cheveux. Vous voyez, moi je l'ai fait hier soir pour essayer de s'entretenir un petit peu, quoi.
c'est pas mal. Vous avez...
Et puis le tour de force, c'est que vous avez gardé la cuisine aussi, parce que ça, c'était pas évident d'avoir des recettes.
Ouais, alors,
de
ça,
cuisine.
Du coup, on l'a fait avec des chefs depuis chez eux, qui s'auto-filment aussi, ils sont avec leur petit téléphone, et ils nous font des. Donc, c'est en magnéto, du coup, c'est un condensé, mais c'est assez rapide, du coup, c'est assez agréable à suivre. Et on a des chefs d'un peu partout qui nous livrent leurs recettes chaque jour, c'est très sympa. Ouais.
Et puis l'activité physique, évidemment, indispensable, donc une séquence spéciale, m'a-t-on dit?
Oui, spécial confinement, c'est avec France Télévisions, là, on a 12 minutes de sport en tout début d'émission pour essayer de garder un minimum là aussi de dignité. Et donc on essaie de s'entraîner tous les jours pendant 12 minutes avec deux coachs qui nous font faire des exercices. Et puis ensuite, après ces 12 minutes, on reprend le cours normal de l'émission. On se repose, on sourit, on s'amuse.
Et sinon, vous entendez bien avec votre compagne, puisque j'ai vu que vous aviez fait un débat également dans la quotidienne sur comment supporter sa compagne. Vous la supportez bien, ça se passe bien?
Bah, vous répondez non, on s'engueule tous les jours.
On s'engueule tous les jours. Non, il y a des petites anicroches parfois. Ça, c'est tous les couples. Mais nous, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, vous savez. Donc, on est un vieux couple maintenant et on s'entend bien. On a cette chance-là de bien s'entendre et d'arriver à gérer les enfants sans trop s'engueuler.
Donc, pour résumer, on va retrouver les chroniques habituelles, on va retrouver évidemment la cuisine, on va retrouver les conseils pour les animaux aussi, du jardinage, enfin, un petit peu tous vos chroniqueurs habituels et avec des chroniques spécifiques.
Voilà, c'est ça, toute la bande de la quotidienne et là, tous les experts, les gens ont l'habitude de suivre tous les midis et ils sont là pour essayer de d'être au plus proche de vos préoccupations.
Donc, on peut dire à nos auditeurs également qui peuvent vous envoyer des questions.
Bien sûr.
En tout cas,
sur la page Facebook de la quotidienne ou sur cp@laquotidienne.net, ils nous envoient des questions par email comme ça et puis on y répond tous les jours. Et on a des invités aussi qui sont là pour répondre à des questions plus spécifiques. On fait des quiz aussi de plus en plus aussi sur la forme, sur la santé, sur le bien-être pour essayer de là aussi. Et répondre aux questions des gens.
Très bien. Bah, écoutez, merci Thomas Hill. On va vous retrouver donc tous les jours avec Maya Loquet et votre équipe. Donc le retour de la quotidienne à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendaient du lundi au vendredi, donc à 11h45 pour plein de conseils pratiques spéciales confinement sur France 5, évidemment.
France 5,
merci beaucoup.
Merci Gilles, Thomas. Merci Valérie.
Merci Thomas Hill d'avoir été avec nous. À bientôt.
Gilles, quelques petites infos, Valérie. Avant de se quitter. Sachez que Facebook a ajouté deux émojis à partir d'aujourd'hui. Alors, les émojis, vous savez, c'est ces petits logos qu'on met.
Les petits smileys.
Et donc, ils ont rajouté, à cause de la crise du coronavirus, deux petits émojis. Alors, il y en a un, c'est un petit émoji qui a son cœur contre lui pour montrer qu'on pense aux gens et qu'on les aime beaucoup. Et puis, il y a une nouvelle réaction aussi, qui est un cœur qui est violet, et ça c'est pour tous les soignants et les médecins, c'est pour signaler qu'on aime les médecins. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est en Messenger sur votre Facebook, vous avez deux nouveaux émojis, le petit cœur et le cœur violet. Apple aussi s'est associé, je sais pas si vous le savez, à Google Maps. Alors vous pouvez vous inscrire sur Apple et sur Google Maps qui suit les trajets et voit si les Français respectent le confinement. Alors on n'est pas loin du débat qui va arriver, vous savez, avec l'appli Covid-19 que veut mettre en place le gouvernement pour justement savoir qui on est en contact. Mais si vous voulez voir un petit exemple, vous pouvez en effet sur Apple ou bien sur Google Maps voir ça. Et puis on voit déjà, alors ils mettent en ligne, ça s'appelle Mobility Trend, ils mettent en ligne vos déplacements et on voit à peu près les gens qui se déplacent en temps réel, c'est assez impressionnant. Et ils mettent aussi, je les ai là, ils mettent en ligne les schémas, vous voyez, des déplacements vers Lyon, vers Paris. C'est assez, assez étonnant. Et puis pour finir, est-ce que vous connaissez le yoga, Valérie?
Oui,
eh bien, il y a une chaîne de yoga qui s'est lancée, qui s'appelle Kundalini Yoga TV. Et en fait, c'est pour faire du yoga et prendre des grandes respirations et se détendre dans cette période-là. Eh bien, maintenant, vous pouvez le faire de façon virtuelle.
C'est sur Instagram ?
C'est sur Facebook et sur YouTube. C'est une chaîne de télé qui s'est lancée
parce qu'il y a
YouTube.
beaucoup de cours sur Instagram, de cours de gym, de coachs qui ont décidé d'offrir des cours gratuits. Yoga, pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Et c'est vrai que le yoga, ça permet de lâcher la pression. Merci beaucoup, Gilles. On se retrouve demain avec vous. Dans un instant, on va parler d'un autre pays, le Cambodge, qui également est dans une situation très compliquée pour ses habitants. On sera avec Tina Kieffer. On aura également le président français de la Société française de virologie, et puis également un responsable associatif pour tous ces gens qui n'arrivent plus aujourd'hui à se nourrir en France. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est en ligne avec Tina Kieffer. Bonjour Tina.
Bonjour Valérie.
On parle beaucoup de la France, mais la moitié de l'humanité est confinée et pour certains pays, les conséquences sont encore pires que chez nous. Alors pour resituer, on vous a connu journaliste. Il y a quelques années, vous avez décidé de vous lancer dans une aventure extraordinaire que vous racontez dans un livre, Une déflagration d'amour, qui est paru chez Robert Laffont, le coup de foudre pour cette petite fille au Cambodge que vous avez adoptée. Et vous avez décidé de vous investir dans ce pays et vous avez créer cette école, ce projet complètement fou au départ, commencer avec une classe. Vous êtes arrivé jusqu'en terminale. Il y a plus de 1000 élèves dans cette école à Pichandara. Et aujourd'hui, vous lancez un appel à la solidarité. Parce que racontez-nous ce qui se passe au Cambodge. Quelle est la situation?
Eh bien, le Cambodge, c'est un peu comme ici. C'est un pays mort actuellement. Ouais. On a annulé le nouvel An Khmer. Phnom Penh est fermé, etc. Mais les conséquences économiques sont beaucoup plus dramatiques sur un peuple déjà très pauvre. Et nous, où est située l'école, on n'est pas très loin de Phnom Penh, mais on est dans une zone pré-rurale où il y a beaucoup de bidonvilles. Donc on a des familles qui sont déjà, disons, qui gagnent au jour le jour ce dont elles ont besoin pour se nourrir. Elles travaillent dans des usines, elles vendent du jasmin pour faire des colliers. Alors là, avec le nouvel ordre annulé, plus de colliers de jasmin, les usines sont fermées, etc. Donc, nos familles sont dans une précarité absolue qui, là, touche même les besoins vitaux, c'est-à-dire les besoins alimentaires. Donc, nous, on a effectivement, comme vous dites, on a 1400 élèves. Donc, on a décidé pour les familles les plus pauvres, mais pas seulement pour les familles de nos élèves, parce qu'on ne va pas faire c'est impossible dans un cas comme ça. Donc, on travaille sur 5 villages autour de Pichandara. On a environ 900 familles, vraiment ce qu'on appelle pauvres, très pauvres, c'est-à-dire qui vivent vraiment dans des abris qui n'ont rien. Et on a décidé pendant 4 mois de leur livrer chaque mois un panier alimentaire qui leur permet vraiment de se nourrir, de résister aussi au niveau des défenses immunitaires. Donc il y a du poisson séché, il y a du riz, il y a du lait concentré, etc. Et de distribuer à ces familles pour qu'elles puissent tenir le coup. Donc évidemment, c'est un coût pour nous, donc on lance un appel pour financer un panier alimentaire, voilà, pour
dans ces familles, parce qu'il faut rappeler que les petites filles qui sont scolarisées dans votre école sont des petites filles issues de milieux extrêmement pauvres, dont le destin était d'aller au champ, de ramasser les récoltes, et grâce à vous, enfin grâce à cette école, elles sont scolarisées, elles apprennent, elles sont éduquées, et elles peuvent avoir un avenir un peu meilleur que celui qui leur était destiné. Alors déjà, l'école, qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement fermée.
Alors, elle est fermée depuis mi-mars. Alors on a distribué, bon, c'est une école où on a mis une éducation assez exigeante. Je suis partie sur l'idée que c'est pas parce que c'était des enfants pauvres qu'on allait simplement leur apprendre à lire, à écrire. Et d'ailleurs, ça a porté plutôt ses fruits parce que ces petites sont tellement déterminées à réussir, comme elles viennent de milieux pauvres, qu'elles travaillent. Et ça fait 2 années qu'on a des promotions en âge de passer bac et ça fait 2 années où on a eu 100% d'admission, meilleur score au Cambodge, ce qui prouve que quand il y a la motivation, l'enfant se surpasse. Donc, écoutez, on essaie de faire comme en France. On a mis en place une éducation à distance. On a distribué des smartphones. Tout ça aussi, ça a un coût, évidemment, mais nos élèves, faut pas qu'elles décrochent sur certaines matières. On a de la chance, comme on n'est pas très loin de Phnom Penh, on a un réseau Internet. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est de voir qu'elles réagissent très, très bien au travail à distance, qu'elles sont hyper au taquet, quoi. Vraiment, elles veulent surtout pas perdre leurs cours. On sait pas du tout, nous, quand l'école va rouvrir. Donc, nos petites, alors on a évidemment des assistants sociaux, on a une grosse équipe médico-sociale qui patrouille les environs pour voir, parce qu'on est aussi confronté, comme ici, de violences domestiques qui sont déjà beaucoup plus élevées dans cette partie très pauvre du Cambodge. Donc, on a nos assistantes sociales qui vont voir un peu si tout se passe bien, mais l'ennui, ce sont ces familles qui n'ont plus aucun revenu, alors qu'elles sont déjà souvent endettées, qu'elles vivent dans des cabanes en bois et qu'elles n'ont il n'y a pas de frigo, là-bas, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de stock de nourriture, vous voyez. Donc, il faut vraiment leur venir en aide.
Il faut leur venir en aide et c'est vrai qu'on n'imagine pas ces pays qui sont complètement à l'arrêt. Alors il y a pratiquement, je disais, la moitié de l'humanité, mais des pays comme l'Inde ou encore une fois comme le Cambodge, tout s'arrête et tous ces petits boulots que vous évoquiez s'arrêtent et il n'y a plus rien. Donc pensons à ces petites filles, parfois grandes filles, hein, puisque vous les amenez jusqu'au bac. Certaines sont
même.
Oui, absolument, maintenant.
Donc,
pour ceux qui veulent vous aider, même peut-être expliquer un don, ce que ça peut faire. Oui.
Alors, écoutez, on a deux paniers alimentaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse déduction fiscale, c'est-à-dire que le panier alimentaire qui coûte 50 euros, en fait, il ne coûte que 16,50 euros, hein, après déduction fiscale.
Après déduction, parce que vous avez un bon qui vous permet de déduire de vos impôts ce que vous aurez donné. Donc, si vous donnez 50 euros, ben, ça vous revient à 16 euros puisque vous pourrez le déduire. Voilà.
Exactement. Voilà. Donc, on a, en fonction de la taille de la famille, du niveau de pauvreté, on a des paniers alimentaires à 50 euros et à 80 euros. Et puis ensuite, de toute façon, les gens qui vont nous donner, on leur enverra des photos des distributions, etc. De toute façon, nous, on est une association qui communique beaucoup. On a beaucoup de parrains. On fait aussi parrainer nos petites filles. Donc, on communique beaucoup sur notre site, etc. On publie beaucoup de films, beaucoup de photos pour qu'il y ait une totale transparence. Comme ça, les gens voient vraiment où vont leurs dons. Ils voient que c'est concret.
Où va leur argent et
c'est important.
Et j'ai eu la chance d'aller au Cambodge et j'ai pu voir ce que vous aviez fait et effectivement l'argent est bien là dans l'école et ces petites filles ce que vous avez fait encore une fois depuis combien de temps maintenant l'école a ouvert
il y
a combien de temps
ça fait 15 ans déjà 15 ans
15 ans le résultat est là et c'est vrai que ce serait dommage que ça s'arrête et que ces petites filles
ça
ne puissent
peur,
pas
parce que
continuer.
Nous toutes les ONG là on a très très peur parce que normal hein, surtout que on a très très peur de d'être très mal financé, d'être abandonné par certaines entreprises qui nous aidaient, par exemple, parce que les entreprises vont mal. Et quand vous avez une école, vous pouvez pas dire à une pitchoune qui est là depuis 5 ans, qui est tellement heureuse de venir à l'école, qui sort de sa condition, qui rêve d'un avenir, bah tu sais, on va fermer l'école. Donc en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus, on réfléchit beaucoup là-dessus, et puis on travaille aussi avec le Cambodge, parce que même si l'école est fermée, il y a plein de choses qui continuent là-bas, notamment pour aider nos familles.
Alors, il y a un site, hein, http://toutesalecole.org. On va sur votre site et on peut faire soit un virement, envoyer un chèque. Et on rappelle que, effectivement, donner 50 euros, ça vous revient à 16 euros, même si en France aussi, les temps sont difficiles.
Mais là,
parfois,
on nourrit une famille pendant un mois. C'est génial quand même.
Merci beaucoup Tina. Puis je rappelle votre livre, Une déflagration d'amour, qui est paru chez Robert Laffont, qui raconte votre histoire, cette histoire d'amour formidable avec cette petite fille qui va bien aujourd'hui. Théa, elle a quel âge?
Écoute,
14
elle
ans.
Elle va très bien.
Plus
elle a 17 ans. Elle a 17 ans.
17 ans, comme le temps passe.
Oui, bientôt 18 ans. Oui, bon, elle est dans la pièce à côté, là. Elle s'est reculée pendant l'interview. Elle va très bien.
Merci beaucoup. Merci, Tina Kieffer, d'avoir été avec nous ce matin. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, donc, on encourage ceux qui peuvent à faire un don à toutes à l'école. Vous trouverez le site sur Internet, puis on le mettra également sur le Facebook de Sud Radio. On est en ligne à l'instant. Je ne sais pas si on est connecté avec Noël Tordeau. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Société française de virologie, responsable de l'Institut Pasteur de Conakry en Guinée. On parlait du Cambodge. À Conakry, quelle est la situation?
Si je regarde par rapport à mon dernier appel qui était il y a une semaine, on avait il y a une semaine 300 cas confirmés, 17 guéris et 0 mort. Et là, en une semaine, on a doublé. On est passé à peu près à 600 cas confirmés. Bon, évidemment, il y a plus de guéris qui sont sortis. Il y a 87 guéris. C'est ce que donnent aujourd'hui les sites. Et il y a quand même 5 morts. Donc, c'est moins... Il y a quand même 5 morts. Donc, après, il faut savoir exactement quelles sont les capacités ici et des diagnostics et d'évaluation exacte du nombre de décès liés au Covid.
Oui. Je voulais vous avoir en ligne à nouveau, parce que vous étiez extrêmement clair, revenir sur tout ce qu'on peut entendre sur ce virus, sur ce Covid-19 en particulier. Moi, je le disais en début d'émission, j'ai reçu une dizaine d'appels de gens qui pensent que les journalistes sont mieux informés que les autres. Non, on l'est pas mieux, mais le professeur Montagnier qui a déclaré que il y avait du virus dans ce virus, le même virus que dans le VIH, que dans le virus du sida. Donc les appels étaient il y a le sida dans le Covid. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a voulu dire et si c'est vrai ou pas.
Bon, tout d'abord, le professeur Montagnier est un prix Nobel que je ne suis pas. Donc je ne vais pas me mettre en position ou en opposition par rapport à ce qu'il a dit. Ce que je peux essayer de répéter et d'expliquer, c'est comment fonctionnent les génomes viraux. Vous savez qu'on a tous des génomes, hein. Les hommes ont des génomes, les animaux ont des génomes, les végétaux, les bactéries, les virus.
Et en fait, le génome, c'est ce qui compose
notre gènes.
Notre carte génétique, voilà.
Exactement. Et il y a un code génétique qui est donc universel, hein, qui regroupe tous les végétaux, animaux, hommes, ce que j'ai cité avant. Et en fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui est faite de maillons. Et chaque maillon s'appelle une base. Dans l'alphabet français, par exemple, il y a 26 lettres, si je ne me trompe pas. Dans les génomes, à l'universel, il y a 4 lettres. A, C, T, G. Et on va construire des mots à partir de ces 4 lettres-là, qui vont être A, C, C, G, T. Vous voyez, vous avez tout le type de construction que vous voulez. Donc voilà. Et en fait, ce type de chaîne va être partagé par tous les êtres vivants. C'est simplement la succession des lettres qui va changer. Ouais. Le livre qui correspond au génome des coronavirus, hein, c'est un livre qui est long d'à peu près 30 000 lettres. On a besoin de 30 000 lettres. Nous, on est bien entendu bien au-delà en tant qu'humain. Mais là, il y a 30 000 lettres. Et donc, j'aime bien utiliser en fait une similarité qui a été utilisée par mon ami Olivier Schwartz, qui travaille et qui est professeur à l'Institut Pasteur, qui dit qu'il y a le livre des coronavirus et puis il y a le livre du HIV. Imaginez-vous, du sida, imaginez-vous deux livres. Dans les deux livres que vous pouvez lire, vous allez trouver des mots qui sont similaires. Vous allez trouver le mot « maintenant ». Vous avez trouvé le mot chien ou le mot chat. Ça ne veut pas dire que les deux livres disent la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est que avec des analyses bioinformatiques, alors je ne suis pas ni un spécialiste de la bioinformatique, ni exactement au fait de comment l'analyse a été faite par le professeur Montagnier, il a retrouvé des mots, donc des toutes petites portions de messages, qui ressemble dans le coronavirus, dans le livre du coronavirus, qui ressemble à ce qui existe chez le HIV. Mais ça, tous les gens qui font de la bioinformatique le remarquent souvent. Et toute la difficulté, c'est d'avoir des outils qui sont suffisamment précis pour dire oui, c'est vraiment ça, ou alors c'est juste par hasard que l'association des lettres se sont mis dans le même sens. Donc voilà, moi c'est mon analyse des choses. Donc pour ensuite faire toute une théorie de y aurait un morceau de génome qui serait rentré dans le code du HIV qui serait rentré dans le coronavirus, ça c'est l'utilisation que l'on peut faire de ce type d'analyse est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit.
On a bien compris. Donc la comparaison du livre est très bien. Vous prenez deux livres, c'est pas parce que dans les deux livres il y a marqué maintenant chien ou chat que c'est le même livre, donc c'est la composition où on peut retrouver, et le professeur Montagnier, je crois, n'a pas fait vraiment de recherche, il s'est inspiré d'une étude indienne qui a été depuis retirée, qui était placée sur un site non scientifique et qui depuis a été retirée. Par ailleurs, dans les choses qu'on a pu entendre en fin de semaine dernière, cette idée que le virus a pu s'échapper du laboratoire, c'est-à-dire mauvaise manipulation, qu'un laborantin ait été contaminé par le virus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sont des choses qui sont déjà arrivées par le passé? Et quelle est la probabilité, parce que c'est évidemment, on n'a pas la réponse aujourd'hui, que ça soit passé comme ça?
Donc les laborantins travaillent dans des virus qui sont dans des laboratoires qui sont des laboratoires protégés quelque part, hein, notamment lorsque l'on parle d'un laboratoire T4, c'est un laboratoire dans lequel il y a extrêmement de protection pour éviter justement et que le laborantin ne s'infecte et que le virus ne sorte, hein. Voilà, c'est ça. Après, dire qu'on a 100% de certitude que ça ne se produise pas, personne ne sera capable de vous dire ça parce que le risque zéro, comme vous le savez, n'existe pas. Mais c'est quand même fortement improbable. Et en tout cas, si ça s'est produit, c'était tout à fait accidentel. Ça peut se produire. Hein. On peut s'infecter au cours de matriculation par accident, si je puis dire. Mais on aime bien utiliser, c'est pas impossible, mais on aime bien utiliser ce type d'argument pour expliquer les choses. Je vous l'expliquais la dernière fois, vous avez les annonces spectacles, et puis en plus, après vous avez la recherche. Et la recherche, ça se fait sur le temps long. Et je pense que ça va valoir le coup de regarder un petit peu plus spécifiquement ce qui circule dans les animaux à proximité de l'endroit où on pense le virus a commencé, pour dans quelques mois ou dans quelques années mieux comprendre ce qui s'est passé. Dans l'urgence, évidemment, on aime bien les scénarios un peu catastrophes, les scénarios un peu catastrophes parce que voilà, c'est en même temps les gens dans confinement, j'imagine, s'ennuient un peu, donc il faut bien dire des choses de ce type.
Oui, on aura, nous, de toute façon, un expert en guerre bactériologique que j'ai eu au téléphone et qui expliquait que s'il y avait eu une intention de contaminer la planète, on aurait pris un virus beaucoup plus virulent, beaucoup plus mortel. Il y a des, donc le côté, à dessein
juste et... Je parlais juste d'accident. Je parlais pas d'intention. Mais évidemment, on comprendrait quelque chose et quelque chose qu'on connaîtrait comme étant déjà bien pathogène pour ce que l'on veut faire, quoi. Voilà.
Oui. Un point peut-être aujourd'hui sur ce qu'on sait sur le virus et sur la réaction de nos systèmes immunitaires. On parle beaucoup de cette immunité de la population. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui a été contaminé et comment. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Le système immunitaire, vous savez, chez l'homme, là aussi, je vais essayer de prendre quelque chose que les gens puissent comprendre. Lorsque vous êtes, le système immunitaire permet de réagir lorsque vous êtes agressé par quelque chose qui vient de l'extérieur et qui n'est pas vous-même, quoi. Donc, vous réagissez par rapport à ça. Si on parle un peu en termes de guerre, on va parler en termes de guerre, puisque c'est se battre contre ceux qui rentrent. La première chose qu'on fait, quand on fait la guerre, c'est qu'on envoie de l'artillerie, globalement, sur les lignes en face. On sait pas trop bien ce qu'on fait. Et ça, c'est le début de la mise en place de l'immunité. Ça s'appelle l'immunité innée. C'est une protection immunitaire qui est globale, avec des molécules telles que les interférons, qui n'est pas très très spécifique. Et elle précède et elle aide à la mise en place des commandos qui vont aller plus spécifiquement sur telle ou telle cible, et ça c'est les anticorps. Tout ça prend un certain temps. Dans les anticorps, vous avez plusieurs cascades d'anticorps. Vous avez les premiers anticorps qu'on appelle les IgM, les immunoglobulines M. Celles-ci, elles sont au moment où le virus est présent. Donc, vous imaginez le virus rentre. Vous avez immédiatement l'artillerie qui se met en place, donc des molécules comme l'interféron, etc., et qui vont vite appeler à la rescousse les anticorps. Les anticorps, c'est nos cellules qui les fabriquent. Ça prend un certain temps. Ils vont pas apparaître avant 7 jours, les premiers anticorps. Et les premiers anticorps sont des anticorps fugaces qui sont présents au moment de l'infection. Et donc, en détectant ces anticorps-là, on sait qu'on est dans une phase infectieuse. C'est les IgM. Ils vont durer de 7 à 14 jours. Et derrière, vous allez avoir les IgG, les immunoglobulines G. Et c'est les immunoglobulines G qui vont neutraliser le virus. Mais ils n'arrivent pas avant 10 à 14 jours. Et c'est cette immunité-là qui est une immunité qui peut être de long terme, pas toujours, parce que ça dépend de l'individu. Ça va dépendre du virus. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez été infecté par le virus, quel qu'il soit, si le même virus se réinfecte, il y a une mémoire qui s'établit. Notre système immunitaire est un système qui se souvient. Donc la deuxième fois que le virus va arriver, soit vous aurez encore des anticorps IgG qui traîneront et qui arriveront à le neutraliser, soit vous aurez les cellules qui sont capables de le refabriquer. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que se passe que fonctionne globalement le système immunitaire. D'abord des choses très très spécifiques, et puis ensuite on fait des soldats qui sont des soldats plus ou moins spécifiques sur la cible. Et ces soldats, certains d'entre eux sont capables de durer longtemps, mais ça dépend de l'état de l'individu et ça dépend du virus. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et là, pour le corona, on n'a pas
un recul suffisant. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup d'être intervenu, Noël Tordeau. C'est toujours passionnant de vous entendre, président de la Société française de virologie, et vous êtes responsable de l'Institut Pasteur de Conakry en Guinée. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et on aura, je pense, l'occasion de vous réinterroger, parce qu'on comprend bien les choses quand vous les expliquez. On se retrouve dans un instant avec Mohamed Mechmash, fondateur de la coordination nationale Passons-nous et du collectif Assez le Feu.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Je suis en ligne avec Mohamed Mechmash. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la coordination nationale Passons-nous et vous êtes porte-parole du collectif Assez le Feu. Hier, le journal Le Monde publiait un article qui dressait un état des lieux de ce qui se passait dans certains quartiers avec une augmentation très importante de demandes dans les associations de nourriture, de colis. Et c'est en particulier ce qui se passe pour votre association. C'est ça? Racontez-nous un petit peu ce à quoi vous avez assisté depuis plusieurs semaines.
Oui, tout à fait. C'est dû tout simplement avec cette crise sanitaire. C'est des problèmes qui existaient depuis très longtemps, qu'on dénonçait depuis un certain temps en termes de justice sociale. Et avec ce virus, c'est puissance 4, puissance 5. Et il y a toutes les personnes qui n'étaient pas dans le radar, qui sortent des radars et qui aujourd'hui sont devenues visibles. Donc en gros, on a toutes ces familles qui, pour certaines, sont au chômage, chômage partiel, des enfants qui sont à la cantine, qui mangeaient à la cantine, qui ne sont plus à la cantine, des familles qui clairement finissaient de trouver fin de mois par des petits boulots par-ci par-là. Donc on a effectivement un manque à gagner au niveau du porte-monnaie. Donc on a compris que les gens, effectivement, ils étaient dans la demande alimentaire. Et enfin, nous, on a réagi assez rapidement dans l'urgence pour pouvoir essayer de combler ce manque par des colis alimentaires.
Et c'est ce que vous avez initié à Clichy-sous-Bois. Comment est-ce que vous trouvez les denrées aujourd'hui? Comment vous faites pour justement vous approvisionner?
Écoutez, ça me permettait de faire un appel. On demande aujourd'hui aux grandes distributions s'ils peuvent nous ouvrir leurs portes pour pouvoir effectivement nous faire des dons alimentaires sur des choses qui vont, au lieu d'être ne pas être consommées, de pouvoir nous les donner. Nous, on saura quoi en faire. Sachant que les familles sont extrêmement, pour certaines, en difficulté et que ça permettra à ces familles de pouvoir en bénéficier. Sinon, on travaille avec du réseau. Je veux dire, on a la Fondation Abbé Pierre qui clairement nous soutient, la ville de Clichy qui nous met la logistique. On a des réseaux dont des amis à Rungis qui récupèrent des palettes. On a les Restos du Cœur de Villepinte qui, une fois qu'ils ont distribué l'ensemble de leurs antennes, et le reste de la marchandise nous les donne. Et on se débrouille comme ça pour récupérer un maximum de denrées alimentaires, fruits, légumes, boissons, produits laitiers, tout simplement pour pouvoir acheminer tout ça sur Clichy-sous-Bois et ensuite mettre en place la distribution avec toutes les normes d'hygiène et de sécurité. On a réussi à avoir des amis qui nous ont mis à disposition des chambres froides, nous ont passé des camions réfrigérés pour pouvoir transporter la marchandise clairement. Voilà, on s'organise comme ça, quoi.
Oui. Les gens qui viennent vous voir sont des gens que vous n'aviez pas l'habitude de voir?
Certains, oui. C'est ceux qu'on ne voyait pas parce que, encore une fois, ils ont leur fierté, leur dignité. En toute humilité, y en a qui sont malheureusement obligés de venir. Et puis, on avait déjà des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Hein, vous savez, il y en a qui travaillent, mais qui n'y arrivent pas. Donc, c'est aujourd'hui tout public qui viennent effectivement récupérer des colis alimentaires. Quoi. Oui. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement a effectivement mis une prime exceptionnelle pour les familles les plus modestes. C'est une bonne chose. Bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle va arriver que le mois prochain. Et nous, on n'est pas liés à cette urgence parce que c'est tout de suite, c'est maintenant que les gens en ont besoin, quoi. Donc, il faut essayer de trouver des alternatives.
Oui, il faut savoir effectivement que souvent, pour certains enfants, le repas à la cantine était le principal repas de la journée et qu'aujourd'hui, au-delà de ça, il y a deux repas à faire. Enfin, le petit déjeuner, le repas du midi, ça fait même trois avec et le soir. Et que si on est en chômage partiel, on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui d'aller s'approvisionner.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est tous ces coûts supplémentaires qu'on n'avait pas. Le manque à gagner, il est là. Et encore pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, y compris les familles qui sont soutenues, qui ont des aides, des prestations pour payer une partie du loyer.
Les allocations familiales et autres.
Ouais. Voilà, mais ça ne suffira pas parce que aujourd'hui, tout ce manque à gagner dans le porte-monnaie a un coût. Ensuite, vous avez les charges, puisque vous êtes plus nombreux à la maison, l'électricité, l'eau. Tout ça, ça se cumule et on va se retrouver malheureusement si on prend pas à bras le corps en amont le problème, c'est qu'il y aura énormément d'impayés de loyer, parce que les gens nous l'ont dit. Si on doit payer le loyer ou manger, on fera manger nos enfants pour éviter qu'ils meurent de faim. Et puis on va se retrouver, malheureusement, sur des dommages collatéraux. Derrière, il y aura des impayés de loyer. Qui dit impayé de loyer dira après expulsion. Donc je pense qu'il faut absolument que là aussi, les bailleurs, ou je sais que la Fondation Abbé Pierre travaille sur un fonds de solidarité d'impayés, pour les impayés, puis qu'à partir de là, les bailleurs pourront peut-être, si ce fonds existe, aller tout simplement récupérer les impayés dans ce fonds de solidarité d'impayés, quoi. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse à tout ça, parce que c'est toute cette chaîne-là qui, aujourd'hui, un problème emmène un autre problème, et si on n'arrive pas à essayer d'arrêter cette hémorragie, on va se retrouver après le confinement avec d'autres soucis, quoi.
Ouais. Et alors, on vous a reproché aussi de pousser les gens à ne pas respecter le confinement en venant chercher ses colis. Les gestes barrières sont respectés. Pourtant, on a pu voir des images d'une file très très longue avec des gens qui respectaient ces distances. Les autorisations dérogatoires, il faut le dire aux gens, autorisent la population à se rendre dans les centres pour se faire aider.
Tout à fait. Ce qu'on essaye de pointer à chaque fois, c'est cette manière de dire qu'en banlieue, on respecterait pas le confinement, alors qu'en fait, c'est faux. Les gens, ils sortent pas par loisir, hein, ou par plaisir. Ils sortent par nécessité. Et je vous assure que toutes les normes de sécurité sont mises en place. D'ailleurs, y compris la police municipale de la ville de Clichy veille avec nous à ce que les choses soient respectées, quoi.
D'accord, très bien. Mais merci d'être intervenu et de nous avoir un petit peu expliqué ce qui se passait pour certains, dans certains endroits où effectivement le confinement, l'arrêt du travail a des conséquences très très compliquées. Merci Mohamed Mechmash d'avoir été avec nous. On se retrouve nous dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va revenir sur l'intervention hier du Premier ministre. Longue intervention, qu'en avez-vous retenu ? À tout de suite sur Sud Radio.